Chapitre 8. L'anxiété. Dans les chapitres précédents, nous avons montré que certains choix de vie perturbent le sommeil et que, pour retrouver un rythme régulier et naturel, il faut modifier tout ou partie de ces choix. Mais il existe un autre facteur qui perturbe énormément nos nuits et sur lequel nous n'avons apparemment aucune prise, l'anxiété. C'est une fidèle complice des insomnies, à l'origine de l'un des cercles vicieux les plus puissants de tous ceux auxquels nous sommes confrontés. Tant que vous serez anxieux, vous ne pourrez pas dormir, car l'anxiété a justement pour rôle de vous maintenir en alerte. Pourquoi sommes-nous anxieux? Il ne faut pas avoir honte de l'anxiété. Elle est inscrite dans notre ADN pour la simple et bonne raison qu'elle est essentielle à notre survie. Face à une menace, nos muscles se tendent, notre rythme cardiaque s'accélère et notre respiration devient plus courte et plus intense. Ces réponses physiologiques nous préparent au combat ou à la fuite pour affronter notre agresseur ou pour nous échapper. Nous regroupons ces réponses physiologiques sous le nom générique de peur. L'anxiété fait partie de l'instinct de peur. C'est elle qui nous prépare aux menaces potentielles. En d'autres termes, ce ne sont pas les menaces auxquelles nous devons faire face sur le champ qui nous rendent anxieux, mais celles qui pourraient advenir dans le futur. Cela ne veut pas dire que l'anxiété est inutile. Si vous marchez dans une ruelle sombre la nuit, l'angoisse que vous ressentez est là pour vous préparer à l'éventualité d'une agression. Il n'y a pas de menace immédiate, vous n'êtes pas confronté à un agresseur. Vous réagissez simplement à la possibilité que cela se produise. Et même si vous savez que les chances sont très faibles, elles ne sont pas nulles, et vous devez vous y préparer. Cette capacité à prévoir les dangers ne suppose pas d'avoir une faculté d'abstraction. Les animaux sauvages l'ont développé eux aussi. Si une antilope sent la présence d'un lion, elle cesse de brouter et se crispe. Ses yeux scrutent l'espace autour d'elle. Son nez et ses oreilles s'agitent pour capter les odeurs et les sons qui pourraient lui indiquer où se trouve le prédateur. Elle ne peut pas voir le lion. Elle n'a pas été attaquée, mais elle sent qu'une attaque se prépare. Lorsque le lion sort de sa cachette, l'antilope est prête à s'élancer comme un sprinteur en position de départ sur les starting blocks. Dans la plupart des cas, l'antilope parvient à s'échapper. L'anxiété est un instinct de survie essentiel. La vie de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs en dépendait au quotidien autant que celle d'une antilope. Mais nos ancêtres ne souffraient pas d'insomnie pour autant. Pourquoi? Pourquoi nos ancêtres dormaient-ils si bien? Notre propension à imaginer les dangers est un instinct naturel câblé dans notre ADN. Mais c'est aussi devenu, avec le temps, une faculté d'abstraction. Nous créons de l'anxiété là où il n'y a aucune menace pour notre survie. Parfois, nous le faisons même pour nous divertir, que ce soit un manège dans une fête foraine ou un film d'horreur. Nous sommes capables de créer de la peur. Même si nous savons qu'il n'y a pas de danger réel, la suggestion a le pouvoir de déclencher chez nous l'instinct de peur. Pourquoi on joue à se faire peur? Parce que la réaction naturelle est exaltante. On est en état d'alerte, on sent une montée d'adrénaline, un délicieux frisson. Mais cette montée est conçue pour durer le temps de courir ou de se battre. Si l'on en abuse, le corps et l'esprit en souffrent. Nous ne sommes pas faits pour vivre avec des poussées d'adrénaline répétées et prolongées. Nous pouvons regarder un film d'horreur de temps en temps sans que cela ne pose de problème. Mais on mesure mal l'impact qu'a sur l'esprit et le corps la surstimulation constante, qu'elle soit le fait des jeux en ligne ou des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plateforme Twitter est l'un des endroits de la planète les plus hostiles sur le plan émotionnel. Des millions de personnes se mettent en colère à chaque seconde contre ceux dont les opinions diffèrent. Une colère et une agressivité débridées s'y déchaînent en permanence. Des désaccords constants, des attaques verbales et aveugles, et des comportements ignobles s'y déversent sans discontinuer. Les utilisateurs de tous bords y participent, ivres d'une folle autosatisfaction, convaincus qu'ils sont dans le vrai, habités par une pieuse indignation, comme s'ils étaient les combattants d'une bataille entre le bien et le mal. La nuance, la politesse, la retenue et la compréhension des différents, l'idée que deux vérités divergentes peuvent cohabiter, voire se compléter, tout cela est passé à la trappe. On assène des réponses tranchantes, si possible brillantes, sans passer par l'évaluation constructive et réfléchie du point de vue de l'autre. La surstimulation constante et débridée a mené à ce triste spectacle. Vous parlez de réseaux sociaux, on devrait les appeler des réseaux antisociaux. Twitter n'est qu'un exemple parmi d'autres des inventions de la vie moderne qui promettaient beaucoup, mais se sont retrouvées paralysées par une minorité d'utilisateurs. Certains se sont lancés dans une quête d'adrénaline à bas prix, semant le chaos sur leur passage. Le slogan de ces agressions en ligne pourrait être « Frappe d'abord, réfléchis ensuite ». Le caractère virtuel, largement anonyme du discours en ligne, en a fait un champ de bataille toxique. En face à face, même dans la version la plus moderne des lois de la jungle, les personnes coupables de tels comportements subiraient très rapidement des représailles. Alertées par une anxiété authentique, elles sentiraient instinctivement le danger. Et pour l'éviter, elles auraient recours à la discrétion, la compréhension et la discussion ouverte. Elles tenteraient de parvenir à un accord ou accepteraient simplement que les opinions divergent. Dans la twittosphère, l'absence d'anxiété véritable, qui est protectrice, et l'excès d'adrénaline ont créé un environnement délétère. Les personnes en question en viennent à souffrir de fatigue, d'insatisfaction et de stress, autant de facteurs qui mènent à la dépression et à l'anxiété, et créent un terreau idéal pour les troubles du sommeil. À quelques exceptions près, les utilisateurs qui fréquentent le réseau ne passent pas ensuite à l'action pour défendre leurs idées. Rien n'est accompli, personne ne change d'opinion et aucun type de mobilisation n'y progresse de manière significative. La seule chose que l'on y gagne, c'est le frisson momentané que procurent quelques « j'aime », retweets et commentaires venant de personnes que l'on n'a pour la plupart jamais rencontrées. Vous vous rendez compte à quel point ce frisson est vain? C'est comme porter des chaussures trop serrées pour le simple plaisir de les retirer le soir. Inutile et douloureux. Notre faculté d'abstraction est à l'origine de diverses angoisses qui nous aident à survivre, ou du moins à esquiver les menaces. Mais quand ces angoisses s'installent durablement, elles viennent, elles aussi, perturber le sommeil. Les craintes liées à la perte d'un emploi, par exemple, sont d'ordre intellectuel. Vous avez réfléchi à ce qu'il se passerait si vous perdiez votre travail. Vous risqueriez, par exemple, de ne plus avoir d'argent, d'être obligé de vendre vos biens, de sacrifier les plaisirs et le confort dont vous jouissez actuellement. Vous risqueriez aussi de vous sentir inutile. Vous faites donc tout ce qui est en votre pouvoir pour préserver votre emploi. Même s'il n'est pas menacé aujourd'hui, vous essayez de vous rendre indispensable. Vous avez de très bonnes raisons de vouloir conserver votre place. Mais quand cette sécurité devient une source d'angoisse à long terme, elle perturbe le sommeil. L'anxiété chronique est symptomatique de notre mode de vie. Nous sommes confrontés à de très nombreuses situations qui nous apparaissent comme des dangers. Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous accrocher à nos peurs. Nos ancêtres ne souffraient pas de ces troubles. Ils dormaient sur leurs deux oreilles alors que leur survie était bien plus menacée que la nôtre. Les causes de l'anxiété chronique. Par « anxiété chronique », nous entendons toute anxiété qui dépasse le bref instant qui prépare à la lutte ou à la fuite. Toute menace est source d'anxiété. Pour nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il pouvait s'agir de la faim, de la soif, du froid, de la maladie, des catastrophes naturelles ou des agressions. En tant qu'êtres sociaux, ils éprouvaient aussi une certaine anxiété quant à leur place dans la tribu ou à leur instinct d'accouplement. Mais ils ne souffraient pas de l'anxiété chronique qui nous accable aujourd'hui. La liste de nos angoisses s'est considérablement allongée. Y figurent des angoisses telles que l'argent. L'argent est une source d'anxiété créée par l'homme. S'il compte plus pour certains que pour d'autres, il est pratiquement impossible de s'en passer dans le monde dissivilisé. Pour avoir un toit, du chauffage, de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, on a besoin d'argent. Et je ne cite ici que les biens de première nécessité. Plus on s'enrichit, plus on s'habitue à d'autres formes de confort qui nécessitent encore plus d'argent. Voitures, restaurants, vacances, divertissements, loisirs, écoles, vêtements, téléphones, montres, téléviseurs, bijoux, meubles, décorations. Il n'y a rien de mal à dépenser son argent dans des choses qui font plaisir ou facilitent la vie. Cela devient un problème quand on nous fait croire qu'on a envie d'acheter des choses qui, sans ce lavage de cerveau, nous paraîtraient inutiles. Car dès qu'on a l'impression de manquer, ou qu'on ne peut pas se payer des choses dont on pense avoir besoin, l'imagination s'envole. On se met à redouter de ne même plus pouvoir s'offrir l'essentiel. L'anxiété s'installe. On rencontre malheureusement beaucoup de sans-abri. On nous abreuve d'histoires tragiques sur la rapidité avec laquelle les gens peuvent tout perdre. L'idée que cela puisse nous arriver aussi est effrayante. L'angoisse du manque d'argent nous touche tous à un moment ou à un autre. Or, celle-ci perturbe lourdement le sommeil. Le travail. Le travail étant notre principale source de revenus, il est étroitement lié à l'angoisse de l'argent. Perdre son emploi signifie perdre ses revenus. Mais ce n'est pas la seule inquiétude liée au travail. Toutes sortes de considérations peuvent nous tourmenter au milieu de la nuit. Le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire la peur de ne pas avoir les compétences que l'on nous attribue, est très courant. On ne craint pas simplement de perdre ses revenus, mais aussi de se retrouver dans des situations embarrassantes. On ne devrait pas avoir honte de perdre son emploi. Nos proches ressentiront de la compassion et auront envie de nous transmettre des ondes positives. Mais la peur perdure. On est rongé par la crainte de voir sa vie bouleversée. Que ces angoisses soient sans fondement n'y change rien. Vous n'aurez beau avoir que des retours élogieux, vous vous construirez une réalité alternative, malgré l'évidence. Le temps, ou plutôt le manque de temps, est également une source majeure d'anxiété dans le monde professionnel. Telle mission nécessiterait 2 jours de travail, mais le client exige un rendu pour le lendemain. Tout comme l'argent, le temps est un concept créé de toutes pièces par l'homme qui a la spécificité de toujours manquer. Nos ancêtres, Homo sapiens, ne s'inquiétaient pas de ce genre de choses. Ils n'avaient pas de réveil, pas de montre, pas de calendrier et pas de délai. Ils vivaient avec le soleil, s'adaptaient au rythme des saisons et dormaient profondément la nuit. Les relations sentimentales. Nos ancêtres avaient des histoires d'amour et il se peut qu'ils se soient inquiétés des sentiments de leurs partenaires. Mais de nos jours, les relations sont largement compliquées par le poids de nos attentes. La télévision, le cinéma et les réseaux sociaux construisent une image idéale de ce à quoi devrait ressembler une relation. Quand nos histoires ne correspondent pas à ce que nous voyons à l'écran, cela génère un sentiment d'échec. On sait bien que les clichés renvoyés par les écrans sont des fantasmes, mais cela ne nous empêche pas d'y croire. On se demande sans cesse si nos relations sont à la hauteur de nos rêves. On questionne nos attentes. On s'inquiète de tout au lieu de profiter de l'instant présent. À tel point que l'on finit par ne plus savoir se réjouir de ce que l'on a et de qui l'on est dans la réalité. Cette anxiété ne touche pas que les relations sentimentales. On peut avoir des problèmes avec quelqu'un de sa famille, un ami ou même une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Un simple désaccord avec un inconnu dans un magasin peut être source d'angoisse. Dans l'immédiat, on craint une confrontation. Puis, dans un deuxième temps, on a peur du jugement des autres. Aurais-je dû dire cela? Me suis-je humilié? Aurais-je dû faire preuve de plus de maturité? Ai-je laissé l'autre prendre le dessus? L'anxiété sociale commence dès la cour de récréation et se poursuit tout au long de la vie. On veut être accepté. On veut trouver sa place. Si on n'y parvient pas, on se sent vulnérable. L'instinct de survie se met alors en alerte. Du fait des réseaux sociaux, cette forme d'anxiété n'a jamais pris autant de place dans nos vies. Nous consultons compulsivement nos téléphones en quête de signes d'approbation. Combien de nouveaux followers? Combien de likes? Comment interpréter ce commentaire sous mon poste? Ces pratiques ont créé un nouveau syndrome, la peur de manquer quelque chose, appelé FOMO. Il est désormais très facile de faire preuve de cruauté. Il est tout aussi facile de mal interpréter les intentions des autres. Nous nous sentons jugés, y compris lorsque ce n'est pas le cas. Les réseaux sociaux ont également projeté nos relations dans la sphère publique. Un petit désaccord qui aurait donné lieu à une remarque désagréable dans la cour de récréation est susceptible d'être vu par des milliers, voire des millions de personnes, dans le cas de certaines célébrités. Les enjeux sont importants et le prix à payer en cas d'erreur, terrifiant. Les ambitions. Parfois, notre quête du bonheur et du respect nous pousse à nous mettre dans des situations qui nous rendent nerveux. Ce peut être aussi dans l'espoir de contribuer à rendre le monde meilleur. Certains participent à des compétitions sportives de haut niveau, jouent dans des pièces de théâtre ou prennent la parole en public. D'autres acceptent des postes à responsabilité, rejoignent une association de quartier, prennent la direction d'une école ou d'un club sportif. Rien ne les y oblige. Rien de tout cela n'est indispensable à leur survie, mais ils ont néanmoins beaucoup à y gagner. Hélas, la quantité de stress que ces situations génèrent n'est pas toujours proportionnelle aux bénéfices espérés. On n'a pas seulement peur de ne pas remporter telle compétition, de ne pas réussir dans un nouveau poste ou de ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu de nous. On a aussi peur de la manière dont cet échec serait perçu. Que vont dire les gens? Comment vont-ils réagir? Cela nous fait douter de nos capacités à réussir, voire même de notre légitimité à nous lancer dans ce type d'aventure. Ces angoisses conduisent la plupart des gens à éviter tout simplement ce type de situation. Leur attitude pourrait se résumer de la sorte. Pourquoi devrais-je m'impliquer dans cette cause, dans cette mission, dans ce rôle? D'autres sont plus à même que moi de prendre le risque. Les enfants. Nos ancêtres s'inquiétaient certainement pour leur progéniture. Du fait de l'instinct maternel, ils devaient craindre que leurs enfants tombent malades, se blessent ou tombent entre les griffes d'un animal sauvage. Mais les parents d'aujourd'hui sont confrontés à un nombre bien plus important d'inquiétudes, toutes susceptibles de les tenir éveillés la nuit. Mon enfant est-il assez heureux? En assez bonne santé? Assez populaire? Est-il victime de harcèlement? Est-il assez doué? Sûr de lui? Ses résultats scolaires sont-ils sur la bonne voie? Sèche-t-il les cours? Sera-t-il accepté dans telle équipe sportive? Combien de temps passe-t-il derrière l'écran? Son ou sa petite amie est-il ou elle bien pour lui? À quelle heure va-t-il rentrer à la maison? Et s'il se droguait? Qui conduit ce soir? Va-t-il aller à l'université? Aura-t-il les moyens de trouver un emploi, de payer une maison, d'avoir des enfants? Quand on devient parent, on ne s'angoisse plus seulement pour sa place dans la société, mais aussi pour celle de ses enfants. Et comme c'est hors de notre contrôle, de la même manière qu'on ne peut pas conduire une voiture depuis le siège passager, on a l'impression de ne rien pouvoir faire d'autre que s'inquiéter. L'alimentation. La nourriture ne devrait pas nous rendre anxieux, n'est-ce pas? Ce serait oublier un peu vite notre fâcheuse tendance à consommer des produits toxiques. Chaque fois que l'on mange ou boit quelque chose qui ne respecte pas ce que Mère Nature a prévu, l'instinct de survie le fait savoir. Cela peut se traduire par de la douleur, indigestion, constipation, diarrhée ou vomissement. Mais cela peut aussi prendre la forme de la culpabilité, de la déception ou du sentiment de manquer de volonté. Toutes ces émotions provoquent une anxiété chronique. Nous avons peur de ne pas garder la forme, de ne pas atteindre et conserver le poids parfait. Notre addiction aux aliments qui font grossir nous inquiète. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs n'avaient pas de telles angoisses. Leur mode de vie les maintenait au poids idéal pour rester en forme, chasser et survivre. Aujourd'hui, nous sommes obsédés par le poids, mais c'est surtout pour des questions d'esthétique. Les réseaux sociaux ont exacerbé notre conscience de nous et de notre image. Nous postons sans cesse des photos et nous nous comparons aux autres. Tout ce qui n'est pas à notre avantage devient source de tristesse. Et, malgré cette obsession, nous nous jetons sur la junk food, même si elle a l'effet exactement inverse de ce que nous souhaiterions. La santé. On a la chance de vivre à une époque où la médecine fait des merveilles. Et pourtant, les craintes pour la santé se multiplient et nous tiennent sans cesse en alerte. Au moindre mal, à la moindre douleur, au moindre élancement, au moindre pincement, on se précipite sur Internet pour savoir ce qu'on a. C'est grave, docteur, est-ce que je vais survivre? On s'inquiète pour sa santé, mais aussi pour celle de ses proches. On se raconte des histoires terrifiantes sur des maladies et des blessures extrêmement rares, comme si se rapprocher de l'horreur pouvait en protéger d'une manière ou d'une autre. Malgré nous, cela finit par nous affecter. Nous tournons et retournons dans notre lit à nous inquiéter de ce qui pourrait nous arriver. Nous imaginons des scénarios catastrophes. Les problèmes de santé potentiels ne manquent pas, de sorte que nous trouvons toujours matière à nous angoisser encore et encore, si tant est que nous décidions de poursuivre dans cette voie. Le fait est que, face à ces angoisses, nous avons le choix. Nous avons le contrôle. Il ne tient qu'à nous d'apprendre à nous en libérer pour retrouver le sens des réalités. Les insomnies. L'anxiété perturbe le sommeil, ce qui à son tour génère de l'anxiété. Le sommeil est un élément essentiel de notre cycle quotidien. Nous sommes naturellement très attentifs à toutes ces perturbations. Si vous savez que chaque nuit vous allez être torturé par l'angoisse et la tristesse, vous passerez vos journées à appréhender le soir. Le manque de sommeil a exactement le même effet. Quand on sait que quelque chose de désagréable va se produire, on s'en inquiète par avance. Cette anxiété est à la fois instinctive et construite. L'incroyable machine qu'est notre corps a besoin de son comptant de sommeil. Lorsqu'elle en manque, son état se détériore. Les sens envoient alors des signaux pour avertir qu'il y a un problème. L'intellect aussi. Nous savons que le manque de sommeil est mauvais pour nous, qu'il affecte notre humeur et nos performances, et qu'il peut nous rendre malades. Ainsi, plus nous souffrons d'insomnie, plus nous sommes anxieux, et plus il est difficile de trouver la tranquillité d'esprit et la détente physique dont nous avons besoin pour un sommeil de qualité. Faire le choix du calme. Comme pour les habitudes dont nous avons parlé dans les chapitres précédents, on se sent coincé par l'anxiété parce que l'on ne se rend pas compte qu'on a le choix. On imagine qu'elle nous tombe dessus dans certaines circonstances et qu'on doit la supporter en attendant que ces circonstances changent. On ne pourra pourtant pas se libérer de l'insomnie tant qu'on restera coincé dans l'anxiété. Toutes les formes d'angoisse que nous avons abordées dans ce chapitre doivent être interrogées. Il faut s'attaquer à la source de nos inquiétudes pour faire changer les choses. Très bien, mais comment fait-on pour surmonter l'angoisse? Tout d'abord, rappelons la recette idéale pour ne pas y parvenir. Ni un verre, ni une cigarette, ni une drogue, quelle qu'elle soit, ni de la nourriture rassurante ne nous aideront. Ce sont les béquilles vers lesquelles on se tourne en général lorsqu'on se sent anxieux. Est-ce qu'elles sont vraiment des soutiens efficaces? Elles ne font au contraire qu'aggraver les choses. Dès que la dose initiale se dissipe et fait place au manque, un malaise physique s'installe. Par ailleurs, savoir qu'on a craqué est une nouvelle source d'angoisse. Les addictions ne créent pas l'espace mental nécessaire pour surmonter l'anxiété. Elles ne font que l'amplifier. Le seul moyen de la surmonter est de se reconnecter à Mère Nature, en accordant toute son attention au message envoyé par les sens et en arrêtant d'essayer de la contrôler. Lâcher prise permet paradoxalement de reprendre la main. Cela demande un peu de pratique, car l'anxiété nous a habitués à rester en permanence sous tension. On a tendance à vouloir s'accrocher encore plus fort, sauf qu'il n'y a aucune prise. Ce que l'on redoute n'est pas réel et ne le sera peut-être jamais. Les angoisses sont plus violentes la nuit, car quand on est allongé au fond de son lit, on est complètement impuissant. Il est impossible de résoudre un problème par la simple force de la pensée. Alors le cerveau tourne à vide. Quand on est en mesure de prendre les choses en main, tout devient moins effrayant. La prochaine fois que vous serez angoissé, demandez-vous si la menace est réelle. Si elle l'est, prenez les mesures nécessaires pour la régler définitivement. Si cela vous arrive au milieu de la nuit, engagez-vous à vous y atteler le lendemain matin. S'il s'agit d'une menace imaginaire, laissez faire. Il est inutile de perdre le sommeil à essayer de résoudre des problèmes qui n'existent même pas. En mettant en œuvre ce processus de questionnement très simple, on apprend petit à petit à faire le tri entre les angoisses utiles et celles qui nous encombrent pour rien. Le niveau d'anxiété diminue et le cercle vicieux s'inverse. Quand on repense aux sources d'angoisse qu'on vient de lister, on comprend que les occasions ne manquent pas. De l'argent au travail, en passant par les relations humaines, on a l'embarras du choix. Mais certaines de ces peurs naissent des lavages de cerveau que l'on a subis. L'influence des stars ou de la publicité nous fait craindre des choses qui n'existent pas et n'existeront jamais. Il est temps de s'attaquer à l'une de nos peurs les plus limitantes, la peur du succès.